Chapitre 3. Le lendemain, je reçus la visite de Noël. Furieuse, elle me fit une scène vive et affectueuse. « Mais où étiez-vous donc dans cette soirée? Je suis arrivée un peu tard et vous ai cherché partout. »« Partie de bonne heure, » dis-je laconiquement. « Et pourquoi? C'est ridicule. Vous m'avez causé une véritable déception. Vous deviez être si jolie en toilette du soir. Je me réjouissais de vous admirer. » « Oui, j'étais jolie, je le sais bien. » « Alors ?» Je la regardai si piteusement qu'elle se jeta à mon cou. Le bon cœur et l'esprit fin. Je l'aimais, je l'aime toujours comme la meilleure des amies. Les circonstances, plus tard, malgré leur caractère irritant, ne nous ont jamais désunis. « Vous viendrez dîner aujourd'hui aux Iris, » me dit-elle, du petit ton autoritairement affectueux qui lui va si bien. « Nous avons plusieurs personnes. Habillez-vous bien. Recommandation inutile, car vous êtes toujours bien habillée. » Cette sortie déplaira peut-être à M. du Barral. Pourquoi? On vous ramènera en automobile. J'enlève la position, vous allez voir. M. du Barral fit quelque façon. Il est 4 heures, dit Noël. La tâche de Rita est terminée. Qu'en savez-vous? Soyez aimable, reprit-elle d'un ton câlin, et donnez-moi Rita. C'est facile, après tout, dit-il, souriant des manières de Noël. « D'autant que je sors avec ma fille et dîne avec elle chez des amis. »« Vous voyez bien ?»« Cependant, Rita doit encore taper différents papiers dont j'ai besoin demain dans la matinée. »« Elle se lèvera plus tôt. Nous la ramènerons nous-mêmes ce soir en auto. »« Entendu, n'est-ce pas ?»« Entendu. » »« Je me rappelle ces détails insignifiants. » Parce que je garderai toujours le souvenir d'une soirée qui fut pour Rita Vidal-Armand le point de départ d'événements intimes, on peut presque dire de sa destinée. Après le dîner, Noël me présenta M. Saint-Audon, ce critique dont elle m'avait parlé. Il connaissait plusieurs œuvres de mon père et les loua avec un sens de l'art très aiguisé. M. Vidal-Armand, conclut-il, était en outre un artiste consciencieux. « Que dirait-il devant certaines conceptions modernes » demandai-je. « Il dirait que chaque époque a ses folies en art comme en autre chose, mais il admirerait les 1000 talents qui, malgré tout, s'épanouissent dans notre Paris. »« Monsieur Saint-Audon était laid, disait-on, mais je n'eus pas l'idée de m'en apercevoir, car quel esprit charmant, brillant, pénétrant, si français dans le sens artiste et spirituel du mot. » Pendant le dîner, sa conversation s'était imposée à tous et il ne prononçait pas une parole qui ne me parut intéressante. Il possédait une érudition singulière, bien qu'il n'en fît aucun étalage, mais en répondant aux nombreuses questions qu'on lui soumettait, il montrait une opinion établie sur un savoir solide. Noël m'avait présenté comme une parente de M. du Barral. Tout artiste qu'il était, il me parla de ce banquier remarquable avec une conviction admirative. Je répondis à peine. Je n'abordai plus ce sujet qu'avec une extrême précaution, étant, pour différentes raisons, devenue prudente et un peu plus défiante. Du reste, M. Féval me tira d'un embarras qui menaçait de devenir un mauvais pas. « Vous parlez de notre ami du Barral, René. Êtes-vous en rapport d'affaires avec lui ?» Pas encore, mais dans quelque temps, les conseils d'un financier pour un placement de fonds sérieux me seront nécessaires et je songeais à lui. Qu'en dites-vous? Vous ne pouvez pas mieux vous adresser. Le coup d'œil de du Barral est presque infaillible. En même temps, hardi en affaires, il est d'une rare intégrité. Cette réponse me fit rêver. Alors je n'hésite plus, d'autant mieux que moi, je ne suis pas fort en ces matières. Mais dans les rapports sociaux, M. du Barral me plaît médiocrement. Naturellement, vos mentalités sont aux antipodes, mais en affaires, vous marcherez en complète sécurité avec du Barral. Je regardais droit devant moi, d'un air assez perplexe, pour que M. Saint-Audon le remarquât. Mademoiselle Vidal-Armand me ressemble, elle n'aime pas les questions de finances, je le vois à son air. Oh non, et je vise au milieu d'elle. « Qu'aimez-vous » dit-il avec intérêt. « La nature, l'art, le joli. » Réponse aussi brève que vaste dans ses conséquences, dit M. Féval en riant. Un instant après, j'entendis M. Saint-Audon dire à Noël « Elle est gentille, votre amie, un naturel, une grâce, rien de masculin, Dieu merci. D'où vient-elle ? Elle est normande par son père, dont mieux que personne vous connaissez le talent. Bretonne par sa mère, morte en la mettant au monde. J'ai connu Rita à Nantes, au couvent du Sacré-Cœur. Elle a été élevée en partie par des cousins âgés, disparus également. Alors elle est seule, pauvre petite. Monsieur Dubarral l'a recueillie, c'est bien de sa part. Oui et non, elle est pauvre, il l'emploie comme copiste. Copiste, quelle anomalie avec son air. Dans sa robe blanche, elle ressemble à une jolie mouette que la destinée devrait faire voler capricieusement et se jouer des flots. Elle n'est pas mouette capricieuse par le moral, répondit Noël en riant, mais elle sait se jouer des flots. C'est un caractère. Ils s'éloignèrent et je perdis la suite des amabilités que Noël comptait certainement sur son ami. Avant de partir, je lui dis « Vous aviez une réunion charmante, tous vos invités étaient sympathiques. Quelle excellente soirée !»« Comment trouvez-vous, monsieur Saint-Audon ?»« Oh, si intéressant! Son nom est singulier. N'est-ce pas votre avis ?» Mais non, il nous a raconté qu'au XVIIIe siècle, un trisaïeul quelconque s'appelait Saint tout court et sa femme, Audon, on a réuni les deux noms devenus noms de famille. Ce nom me plaît. À moi également, il plaisait, ma question n'avait été qu'une petite rouerie pour entendre parler de M. Saint-Audon. « M. Saint-Audon vous plaît-il aussi ? » demandai-je. « Si René me plaît, assurément, nous sommes de vieux amis. J'avais 7 ans, lui 14, quand nous nous sommes vus pour la première fois. Il était gentil avec les enfants. Les circonstances et ses études nous ont souvent séparés, mais chaque année nous nous sommes revus. Une fois installé à Paris, il est devenu, ou plutôt resté, un intime de notre maison. Est-il aussi bon que spirituel ? » dis-je en plantant une épingle dans mon chapeau. Vous lui entendrez souvent émettre des idées générales et il a une réputation de bonté très méritée. Je vous conterai plus tard bien des choses, l'auto nous attend. Je dormis fort bien, mais le matin, levé à l'aube pour terminer ma tâche, mes distractions furent aussi hardies que nombreuses. Le visage spirituel de M. Saint-Audon s'obstinait à passer devant moi et mes oreilles écoutaient encore une conversation brillante. Seulement, j'étais extrêmement chagriné par l'idée qu'il entrerait en rapport d'affaires avec M. Dubarral. M. Saint-Audon habitait un appartement en place des Vosges, à Paris. Dans ce cadre du XVIIe siècle, dont il parlait avec enthousiasme, il étudiait, écrivait d'une façon suivie. Je le revis bientôt chez Mme Féval et ma première impression se confirma. Son cœur me parut aussi développé que son esprit, car il comprenait admirablement la souffrance des autres. Il entrait avec une rare finesse dans les nuances du sentiment et du sentiment féminin. Il avait eu, paraît-il, une première jeunesse orageuse, mais devenu très religieux, il vivait désormais en sage, désirait se marier et parlait avec la compréhension la plus délicate de l'union pour la vie avec une femme de son choix. Mettre sa main dans la sienne, cheminer ensemble vers je ne sais quelles étoiles, devait être un beau rêve. Noël le réaliserait, ce rêve, car elle était certainement la femme de son choix. Ses qualités étaient celles qui plaisaient à M. Saint-Audon. Une intelligence ouverte, de la culture, une bonté dont je connaissais bien l'étendue. Les uns la déclaraient jolie, les autres, tout en la trouvant très agréable, s'étonnaient de cette appréciation. Son visage avait une particularité frappante, il s'illuminait littéralement quand elle souriait. Le sourire des yeux les rendait lumineux et de belles dents achevaient d'éclairer ce visage qu'un artiste ne pouvait pas ne pas aimer. Elle se coiffait toujours bien, ayant résisté à la mode affreuse des cheveux coupés. Sa taille moyenne était charmante. Nous étions exactement de la même hauteur, mais personne n'aurait dit la petite Noël, tandis que pour moi... Je suppose que mon air trop jeune et ma taille effilée provoquaient les gens à m'appeler la petite Rita. Je m'étonnais quelquefois de la tranquillité de Noël en parlant de son amie Renée. En apparence, elle n'appréciait pas assez les hautes qualités qui prouvaient que M. Saint-Audon était un homme complet et non un additionneur de chiffres. « Il me semble, dis-je un jour, que vous n'appréciez pas assez cet ami si fin. » « Je l'apprécie à un point que vous ne soupçonnez pas, » répliqua-t-elle en riant, « mais je ne suis pas enthousiaste et naïve comme la petite Rita. » « De l'enthousiasme, dis-je en rougissant, il ne peut être question d'enthousiasme en parlant de M. Saint-Audon. Et pourquoi donc, naïve, croire à la bonté des gens ou la constater, voir la beauté des choses, est-ce donc naïf ? Parfois au moins sur le premier point, mais nous savons que voir en beau est un de vos charmes, Rita. » Ce compliment à double sens me parut étrange et je me demandais si mes chers vieux cousins n'avaient pas eu raison, jadis, de me classer au rang des niais, car les tendances et les goûts de mon enfance, au lieu de disparaître, suivaient une marche ascendante. Plus je voyais de près le lourd positif, plus j'aimais à m'envoler. Je résolus de m'éclairer sur moi-même en posant une question à M. Baladier. Nous étions en excellents termes, sur le pied d'une amitié sincère et d'une discrète familiarité. Jamais, comme je l'ai déjà dit, il ne dînait ou déjeunait chez M. Dubarral sans chercher à causer avec moi. Quand il travaillait avec le banquier, il entrait parfois dans ma cellule, me disait un mot amical et disparaissait. Souvent, c'était lui qui m'apportait des textes à dactylographier. Il accomplissait toujours sa mission avec des circonlocutions courtoises qui rendaient mon esprit plus léger. Quelquefois, lorsque mon cousin recevait des collègues à sa table, je me retirais dans ma chambre après avoir servi le café, mais le plus souvent, je m'asseyais avec une broderie dans le salon, écoutant ou n'écoutant pas la conversation générale. Parmi ces hommes, si occupés de choses positives, les uns, je dus en convenir, s'intéressaient au mouvement des idées, aux arts, et l'entretien s'élevait ou devenait intéressant, mais presque toujours ils se maintenaient ou retombaient dans les questions économiques ou roulaient sur les inquiétudes qu'inspirait la chose publique. Sur ce dernier point, ils insistaient moins et j'avais l'impression que ces financiers, dont plusieurs étaient des sommités, se sentaient une puissance capable de franchir l'obstacle ou de le faire tomber. « Me trouvez-vous niaise ? » dis-je subitement à M. Baladier, qui, assis près de moi, me questionnait sur mes souvenirs d'enfance, beaucoup par bonté et aussi parce que ma conversation l'amusait. « Niaise ? Allons donc !» se récria-t-il. C'est singulier, je donne souvent cette impression, du moins je le crois. Il ouvrit la bouche pour lancer une réflexion certainement admirable, mais il la referma aussi vite, à la façon d'un coquillage qui, après avoir respiré, se ferme brusquement. « Oh que non !» se borna-t-il à déclarer. « Votre foi dans les autres et dans la vie n'exclut pas la clairvoyance, je m'en suis aperçu plus d'une fois. » Ah ! Vous croyez à ma clairvoyance ? Je me tus et le contemplai curieusement. Il croyait à ma clairvoyance et, d'un front tranquille, il m'abordait, il causait aimablement, il s'intéressait à mes pensées, il était, disait Noël, un de mes fervents admirateurs. Souvent même, je le soupçonnais de m'aimer. Sans deviner naturellement la raison de mon silence subit, il continua. « Votre jeunesse est confiante. Si elle ne l'était pas, elle ne serait plus elle-même. »« Cela vous déplairait ?»« Beaucoup. Je n'aime pas les jeunes désabusés. Je les plains, du reste. » Les réflexions de M. Baladier provenaient d'un esprit véritablement observateur dans un sens général, ce qui m'étonna, mais me fit grand bien. Être apprécié n'est pas seulement d'une douceur extrême, mais un stimulant, un excitant, je m'en aperçus à mon enthousiasme qui déborda. « Oui, dis-je, c'est beau, c'est charmant, la jeunesse confiante. Et toute sotte que l'on me trouve, je ne voudrais pas changer. Elle est le génie qui prête de la splendeur à l'herbe et de la magnificence à la fleur, qui découvre des sources enchantées dans les terrains arides et des diamants dans les pierres du chemin. » Dites qu'elle est elle-même cette source enchantée, interrompit-il avec un sourire qui me parut ému. Elle-même source enchantée, vous avez raison, car elle croit à la bonté, au grand dévouement, aux noblesses, à la beauté de la vie, et jette à tout vent les élans de sa foi. À bas les chiffres et ce que vous appelez le positif utile. » Sous cette avalanche, il ne bronchait pas. « Eh bien, vous savez parler quand vous vous y mettez. » Rouge comme un coquelicot, je me repliais sur moi-même avec la sensation pudique de la fleur qui, sous une lumière trop vive, cache son cœur entre ses pétales refermés. Dépité d'avoir tant parlé, j'en voulais à M. Baladier. « Vous, vous-même, dis-je, agirez peut-être un jour avec une naïve noblesse. » « Comment ? Moi ? Moi-même ? » Il m'examina pensivement en fronçant les sourcils, ce qui rendait presque comique sa bonne figure de poupon. « Doutez-vous de moi, mademoiselle ?»« C'est une façon de dire, d'appuyer mon idée, » répondis-je d'un ton détaché. « Je ne suis et ne serai certainement jamais un héros, mais vous, ajouta-t-il avec chaleur, vous êtes, comment dire, vous êtes délicieuse. » « Oh ! M'écriai-je outré, vous n'avez pas le droit de me parler sur ce ton. » J'étais trop fâché contre moi-même pour ne pas éprouver du ravissement à le malmener. Bah, nos rapports si fréquents depuis 4 mois suppriment entre nous la raideur conventionnelle. Entre la convention et une telle liberté, quelle marge ! Et puis, je suis seule pour me défendre, dis-je, furieuse contre moi, lui, le monde entier. » En souriant, il leva légèrement les épaules et ce geste, presque inconscient, n'avait rien de déplaisant. « Agréez mes excuses, mademoiselle, vous m'inspirez, comme bien vous pensez, le plus profond respect. J'ai cédé à l'un de ces élans dont vous parlez si éloquemment. Lorsque je cause avec vous, je ne suis plus le même homme. J'entre dans un courant d'idées qui ne ressemble aucunement à des chiffres, je vous assure. » En voyant poindre une déclaration, je commençais à perdre la tête. Il me regardait avec des yeux, en même temps ardents et attendris. Fort heureusement, M. Dubarral l'appela et le charme fut rompu. Était-ce bien devant lui que j'avais livré mes pensées ? Derrière sa grande silhouette était celle d'un homme plus petit, que l'on disait laid, dont l'esprit, le cœur, accueillait ma tirade avec un sourire bienveillant et une approbation absolue. De sa part, rien de plus naturel, mais M. Baladier, comment pouvait-il vibrer ? Désaccord complet avec le reste. En outre, il avait cru que, m'inspirant une amitié confiante, j'avais livré devant lui mes enthousiasmes secrets. Le pauvre homme !